Bonjour, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture vous propose une émission aujourd'hui sur l'impunité. L'impunité. Bonjour Marc.
Bonjour Eric.
Alors je crois que tu dois nous parler de ce phénomène de l'impunité qui est quelque chose de terrible puisque finalement l'impunité favorise la torture. Elle, au contraire, elle la renforce. Et la CAT a examiné dans le détail en fait en quoi consiste cette impunité.
Oui, effectivement, Eric. Et on peut se poser la question, pourquoi la CAT se préoccupe-t-elle de punir? Est-ce que c'est son rôle? Je limite le sujet. Hein. On est concerné uniquement par l'impunité qui touche aux crimes de guerre, au génocide, aux faits de torture. Pas par l'impunité des voleurs à l'étalage. C'est... Bon, il
n'y
a d'ailleurs pas beaucoup d'impunité là-dessus.
Bien sûr.
Alors, un petit bref rappel historique. Le début de l'histoire de la lutte contre l'impunité, c'est la prise de conscience des horreurs des crimes nazis en 1945, des camps de concentration, d'extermination. Des rescapés de camps de concentration ont dit « Si quelque chose nous a aidé à survivre, c'était l'idée que le jour de la justice arriverait. Hein, » Et ça paraît évident que ceux qui ont pratiqué tel fait soient jugés et punis. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a des mécanismes qui jouent pour que l'impunité perdure.
Oui, alors je pense que tu vas pouvoir, grâce à la réflexion de la CAT, nous éclairer sur tous ces mécanismes de l'impunité, les démonter un petit peu pour mieux les contrer. Alors, peut-être que l'une des premières questions, c'est qui est-ce qu'on doit juger? Qui sont les responsables?
Effectivement, qui juger? Quand il y a des violations massives des droits de l'homme, on se pose la question, est-ce qu'il faut juger les planificateurs, les exécutants, les complices? Il y a un nombre énorme. Exemple, par exemple, au Rwanda. Le génocide du Rwanda a été fait par des milliers de personnes qui ont des responsabilités à des titres divers.
Oui, oui.
Alors, autre mécanisme... C'est que souvent, après des élèvements dramatiques dans un pays, les tortionnaires restent en place. Parce que on ne peut pas décapiter toute la justice, on ne peut pas décapiter toute la police.
Ouais.
Et ces gens-là se couvrent un peu les uns les autres. C'est un peu le cas de la Tunisie, où il y a eu une révolution, une volonté politique de changer... Et puis, dans la réalité, la torture perdure parce que c'est la vieille habitude.
Mmh, mmh. Et aussi, certainement, qu'il doit jouer, il doit y avoir aussi une espèce de lenteur, d'inertie dans tous ces mécanismes, un petit peu.
Oui, absolument, de lenteur. Et puis, dans beaucoup de pays, il y a de telles priorités, l'économie, le social, que... La justice, c'est toujours un peu le parent pauvre. Hein. D'ailleurs, c'est aussi le parent pauvre au niveau des moyens humains et financiers. Il n'y a pas beaucoup d'argent à consacrer à la justice. Et en plus, souvent, il n'y a pas beaucoup de juges en fonction.
D'accord, d'accord.
Alors, autre aussi mécanisme qui bloque, c'est les pressions qu'on exerce sur les victimes, sur leurs proches, sur les témoins, pour qu'ils renoncent aux poursuites. Des fois, même avec les meilleures intentions du monde, hein, on leur dit, bon, écoutez, on est de tout cœur avec vous, mais croyez-vous que si vous allez poursuivre, si vous allez remuer toute cette fange, ça va faire revenir la personne qui est partie?
Ouais, c'est bon. Ouais. Ça, c'est un argument très, très hypocrite, hein, mais malheureusement très efficace, certainement.
Ouais. Ouais. Et ces mêmes victimes, également, il y a de nombreuses barrières financières. Elles n'ont pas le moyen de payer des frais de justice. Il faut se déplacer. Les distances dans certains pays peuvent être énormes.
Oui, je pense qu'elles doivent avoir très peur aussi, les personnes. Hein. Elles doivent avoir très, très peur des conséquences si jamais ça bouge, aussi les pauvres personnes qui sont déjà victimes.
Et ceux qui peuvent les aider sont souvent muselés. Alors quand je parle de ceux qui peuvent les aider, ce sont des défenseurs de droits de l'homme, des avocats, des journalistes, des opposants politiques aussi.
Ouais. Ouais.
Donc, alors, autre point aussi, c'est qui empêche vraiment l'impunité, c'est la priorité donnée aux relations diplomatiques. Et là, je voudrais vous parler d'un exemple très récent entre la France et le Maroc. Tellement récent que c'est en 2015.
Ah.
Des victimes de torture franco-marocaines ont déposé plainte en France, car au Maroc, aucune enquête n'était faite sur leur demande. Des victimes de torture. La CAT a décidé de se battre aux côtés de ces victimes et a déposé une plainte en France, ce qui est légal, car certaines des victimes étaient franco-marocaines. Le dossier était évidemment très solide et très étayé. Et ce qui a amené la juge d'instruction à convoquer le directeur de la DST du Maroc, M. Amouchi. Alors là, brouille et discussion au plus haut niveau des deux États.
Oui.
Le Maroc a déposé une plainte d'intimidation contre la CAT pour dénonciation calomnieuse. La France et le Maroc se sont réconciliés récemment et avec à la clé la remise de la Légion d'honneur à M. Amouchi, patron de la DST marocaine.
Ah !
Quelle honte, hein !
Alors...
Vous écoutez l'émission de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et dans la première partie de l'émission, nous parlions de l'impunité et des raisons pour lesquelles cette impunité perdure pour les victimes de la torture.
Oui, et l'ACAT, Marc, donc, est sensible à cette impunité, d'autant plus sensible que, comme tu viens de nous dire, l'ACAT a fait l'objet d'une plainte du Maroc. Parce que la CAT a voulu, donc disons, qu'il y ait justice par rapport aux actions, aux agissements d'un chef de la DST marocain. Du coup, la CAT se retrouve avec une plainte. Et donc, finalement, on est confronté directement à ce problème de l'impunité au niveau de la CAT. Voilà, donc on va peut-être continuer à parler de l'impunité. Tu nous expliquais que beaucoup de facteurs encouragent l'impunité, les personnes qui restent en place, l'inertie politique, le manque de ressources, les victimes qui n'ont pas d'argent, les avocats et journalistes qui sont menacés, les relations diplomatiques. Là, la France se réconcilie avec le Maroc et va donner la Légion d'honneur au responsable de la DST qui est responsable de torture. Voilà, donc...
Voilà, ben encore deux points là, sur ces mécanismes. Le détournement des mécanismes juridiques. Souvent, après des événements dramatiques dans un pays, il y a des lois qui sont votées, d'amnistie ou de prescription. Mais elles sont détournées, souvent. Et, par exemple, en Argentine, les poursuites engagées contre plusieurs hauts dignitaires avaient été arrêtées en 1986 et 87 à la suite de deux lois d'amnistie. En 2003, le Parlement a fini par abolir ces lois. près de 250 condamnations ont été prononcées.
Ah oui, en Argentine.
Alors, dernier point qui justifie l'impunité, c'est les violations de cette impunité au nom de la sécurité nationale. Et là, je voudrais vous parler des États-Unis, car on attend toujours une action réelle pour punir les responsables de la torture en Irak et dans la foulée des attentats de 2001. Alors, je vais vous citer Barack Obama, qui a dit quelques mots alors que le rapport du Sénat américain sur les techniques d'interrogatoire entre 2002 et 2006 était sur le point d'être partiellement déclassifié. Alors, je cite Barack Obama. Lorsque nous avons utilisé certaines techniques à interrogatoire poussé, des techniques que je considère et que toute personne honnête devrait considérer comme de la torture, nous avons franchi une ligne. Ces aveux sont exemplaires, pourrait-on dire.
Ceux de Barack Obama.
Par le courage dont fait preuve le président d'une grande puissance. Il reconnaît des faits de torture.
Ah, oui.
Mais, effet pervers quand même, c'est aussi exemplaire par une certaine force de cynisme. Car si Barack Obama a mis fin en 2009 aux méthodes employées par son prédécesseur, George Bush, on attend toujours une action réelle pour punir les véritables responsables. Le cynisme est là. Qu'un pays considéré comme la plus grande démocratie du monde pratique la torture, que dans un second temps ils le reconnaissent publiquement, et qu'en définitive, tant vis-à-vis de la morale que du droit, rien ne se passe. Que peut-on dire dans ces conditions à des pays qui pratiquent la torture et tentent de le cacher, qu'il vaut mieux l'avouer, puisque cela ne changera rien. Il y a là un des encouragements les plus cyniques à l'usage de la torture.
Ah oui, ça touche tous les pays du monde et personne n'est à l'abri, malheureusement, effectivement.
Alors, je voudrais conclure. Alors, l'impunité est l'un des facteurs les plus puissants de la persistance de la torture. Car, c'est évident, être à peu près certain de ne jamais être puni dans son propre pays, voir que dans le monde, les tortionnaires échappent aux poursuites, n'incite pas ces tortionnaires à se remettre en question et à arrêter leurs pratiques. D'ailleurs, dans toutes les lettres qu'on écrit dans les pays, il y a toujours deux parties. Première partie, on écrit aux autorités du pays concerné, on dénonce les faits de torture. Et on dit, c'est pas dans votre loi. Et deuxième partie, on dit, il faut que ceux qui ont pratiqué ces tortures soient punis. Et non pas en fonction d'un ordre moral que nous, ONG A4, nous avons. Mais parce que vous, dans le pays, vous avez signé des engagements et des traités internationaux qui interdisent la torture et qui demandent que les tortionnaires soient punis. Et alors, quand des faits de torture sont punis, c'est une grande victoire. Non pas pour une question de vengeance, mais c'est un message haut et fort qui est envoyé à ceux qui torturent, à tous ceux qui les courent et à ceux qui sont leurs complices. Et ça permet peut-être alors de faire diminuer la torture dans le monde.
Merci Marc pour ce bel exposé sur l'impunité, espérant qu'on finisse par petit à petit démonter cela pour protéger les personnes. Merci Marc.
Au revoir Eric.
Au revoir.